Lizzie présente les bienfaits de l'intelligence émotionnelle dans la vie professionnelle. De la Harvard Business Review. Happiness. Lu par François Hatt. Préface de Charlotte Laurent, journaliste à Harvard Business Review France. Le bonheur, promesse ou obsession? Qu'est-ce que le bonheur? Cette question, les grands penseurs se la posent depuis plus de 2000 ans, rappelle Frédéric Lenoir dans « Du bonheur, le voyage philosophique ». Pourtant, la promesse du bonheur est relativement récente dans la culture occidentale. Jusqu'au siècle des Lumières, la tendance était plutôt à la posture mélancolique et à l'austérité. À l'histoire du bonheur, racontée ici par le professeur Peter Stearns, de la poésie du XVIIIe siècle au lancement du Happy Meal de McDonald's en 1977, se conjugue une abondante littérature académique. Daniel Gilbert, professeur de psychologie et auteur de « Et si le bonheur vous tombait dessus ?», revient dans une longue interview sur la façon dont la science, notre manière la plus récente de trouver des réponses, tente aujourd'hui de répondre à cette fameuse question, l'une des plus vieilles que nous nous posons. Après les philosophes et les hommes de lettres, ce sont les économistes, les psychologues et les neuroscientifiques qui se sont lancés depuis une vingtaine d'années déjà en quête du bonheur, de sa définition et de sa mesure. Ce faisant, sa poursuite se serait-elle muée en impératif, voire en obsession? Les Chief Happiness Officers apparus dans nos entreprises, en serait-il le symptôme? C'est la thèse soutenue par les professeurs André Spicer et Carl Sederström qui clament que le bonheur ne rendrait pas heureux. Au-delà du trait d'esprit, il est certain qu'être obnubilé par l'idée d'être heureux demain nous fait passer à côté du bonheur d'aujourd'hui. Car ce sont bien les petites victoires du quotidien qui font la différence, comme l'affirment les chercheurs Teresa Amabile et Stephen Kramer, après avoir suivi pas moins de 238 collaborateurs dans 7 entreprises différentes. Les neurosciences ont par ailleurs prouvé l'existence de liens neurologiques entre nos actions, nos pensées et nos sentiments. Rien d'étonnant alors à ce que le bonheur ne soit pas étranger à l'engagement au travail, à la motivation ou même à la créativité. D'où ce livre audio, signé Harvard Business Review France, inaugurant sa collection dédiée à la portée de nos émotions dans la vie professionnelle, intitulée « Les bienfaits de l'intelligence émotionnelle ». Témoignages et travaux de recherche sont ici regroupés, non pour réaffirmer une forme d'obligation morale à être heureux, mais bien pour prendre de la hauteur sur ce concept, aussi insaisissable que le bonheur semble l'être lui-même. Être heureux au travail compte. Un article d'Annie McKee, professeure invitée à l'Université de Pennsylvanie, directrice du programme doctoral pour les dirigeants PennClaw et fondatrice du Tilios Leadership Institute. Elle est co-auteure, avec Daniel Goleman et Richard Boyatzis, de Primal Leadership, Resonant Leadership et Becoming a Resonant Leader. On croyait autrefois qu'il n'y avait pas besoin d'être heureux au travail pour réussir, ni d'avoir besoin d'apprécier ses collègues ou même de partager leurs valeurs. Le travail n'a rien de personnel. Telle était l'opinion générale. Une opinion archi-fausse. Mes recherches auprès de dizaines d'entreprises et de centaines de personnes, ainsi que les études menées par des neuroscientifiques comme Richard Davidson et Vilayanur Ramachandran, et des universitaires tels que Sean Aker, mettent en évidence un constat simple. Les gens heureux font de meilleurs travailleurs. Ceux qui sont impliqués dans leur poste et auprès de leurs collègues travaillent plus dur et plus intelligemment. Pourtant, un nombre alarmant de salariés ne sont pas engagés au travail. Selon un rapport Gallup de 2013 qui donne à réfléchir, 30% seulement des travailleurs américains seraient engagés. Cela fait écho à ce que j'ai constaté dans mes travaux. Peu de gens sont réellement attachés émotionnellement et intellectuellement à leur entreprise. Nombreux sont ceux qui se fichent éperdument de ce qui se passe autour d'eux. Ils estiment avoir fait le plus dur dès le mercredi, puis ne travaillent que pour arriver au vendredi. Et il y a l'autre extrémité de la courbe en cloche. Près d'un salarié sur cinq est activement désengagé, toujours selon le rapport Gallup. Ces individus sabotent les projets, poignardent leurs collègues dans le dos et causent en général de gros dégâts dans leur environnement de travail. Le rapport Gallup indique également que l'engagement des employés est demeuré largement constant au fil des années, malgré les aléas de l'économie. De quoi donner le frisson ? Nous ne sommes pas impliqués dans notre travail, et cela ne date pas d'hier. Il n'est pas très drôle de travailler avec des personnes désengagées et malheureuses. Elles n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée et ont un impact profondément négatif sur nos entreprises et sur notre économie. C'est encore pire quand les leaders sont désengagés, car leur attitude est contagieuse. Leurs émotions et leur état d'esprit affectent énormément l'humeur et la performance des autres salariés. Après tout, comment nous nous sentons est lié à ce que nous pensons et à la manière dont nous pensons. Autrement dit, pour reprendre le constat fait par Jordan Light dans son article « Mind Reviews, The Emotional Life of Your Brain », paru en 2012, la pensée influence l'émotion et l'émotion influence la pensée. Il est temps de briser enfin le mythe selon lequel au travail, les sentiments ne comptent pas. La science nous donne raison. Comme l'a bien montré Daniel Goleman dans son ouvrage « Surmonter les émotions destructrices » paru en 2008, il existe des liens neurologiques clairs entre les sentiments, les pensées et les actions. Lorsque nous sommes en proie à de fortes émotions négatives, c'est comme si nous avions des œillères. Nous nous concentrons principalement, parfois uniquement, sur la source de la douleur. Nous ne traitons pas aussi bien les informations, nous ne pensons pas de manière créative et nous ne prenons pas de bonnes décisions. Avec la frustration, la colère ou le stress, nous nous coupons d'une grande partie de nous-mêmes, celle qui pense et s'implique. Le désengagement est une réaction psychologique et neurologique naturelle aux émotions négatives envahissantes. Mais ce n'est pas seulement des émotions négatives dont nous devons nous méfier. Des émotions positives extrêmement fortes peuvent avoir le même effet. Un certain nombre d'études, comme l'article « Four Ways Happiness Can Hurt You » de June Gruber, montrent que trop de bonheur peut vous rendre moins créatif et enclin à adopter des comportements plus risqués. Pensez à quel point nous pouvons agir de façon stupide quand nous tombons amoureux. En ce qui concerne le travail, j'ai vu des groupes d'individus se mettre dans tous leurs états lors de congrès commerciaux ou de séminaires d'entreprise. En général, peu de connaissances et d'innovations ressortent de ces réunions. Ajoutez à cela beaucoup d'alcool et vous faites face à toute une série de problèmes. Si l'on part du principe que nos états émotionnels au travail sont importants, que pouvons-nous faire pour accroître l'engagement et améliorer les performances ? Ces dernières années, mon équipe au Tileos Leadership Institute et moi-même avons étudié des dizaines d'entreprises et interrogé des milliers de personnes. Nos premières conclusions concernant les liens entre les sentiments des individus et l'engagement sont tout à fait surprenantes. Les désirs et les besoins qu'ils expriment présentent des similitudes évidentes, peu importe d'où ils viennent, pour qui ils travaillent ou dans quel domaine. On suppose souvent qu'il existe d'énormes différences entre les secteurs d'activité et d'un pays à l'autre. Mais les recherches remettent en question cette hypothèse. Tout le monde, ou presque, pense que pour être engagé et heureux, il nous faut trois choses. 1. Une vision claire de l'avenir. Lorsque les sujets ont échangé avec notre équipe de recherche sur ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas dans leur entreprise, de ce qui les avait aidés ou gênés, ils ont évoqué la vision. Les individus veulent pouvoir visualiser l'avenir et comprendre quel y est leur rôle. Et comme nous le savons grâce à nos travaux sur le changement intentionnel mené avec le spécialiste du comportement organisationnel Richard Boyodzis, les individus apprennent et évoluent lorsqu'ils ont une vision personnelle lié à une vision organisationnelle.